Bonjour à tous et à toutes, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Avec aujourd'hui autour de la table Jean-Claude Adelin.
Bonjour.
Et Karine.
Bonjour.
On se lance pour une chevauchée de 25 minutes ?
Allez, c'est parti.
C'est parti. Alors, on va prendre le cheval au mot et aujourd'hui ça va être le mot étalon. Ça vous inspire ça, étalon ?
Complètement.
Bien. Ah, ça va bien. Alors, vers le début du XIIIe siècle, étalon désigne un cheval entier. Donc, un cheval entier, c'est un cheval qui n'est pas castré. Donc, justement, faire attention en disant, faire la différence. Des gens disent, ah, j'ai un étalon, mais c'est un cheval qui n'a pas sailli. Donc, voilà. Donc, ce n'est qu'un cheval entier, si je puis dire.
Donc, entier veut dire qu'il a ses boules de Noël.
Mais bien, on y arrive à Noël.
Il ne se sert pas, Jean-Claude.
Alors, on appelait ça l'estalon. Et en fait, ça vient du vieil allemand, stallo, qui veut dire tout simplement cheval gardé à l'écurie. Hein, voilà. Bon. Donc, mot dérivé lui-même de stall, qui désignait une écurie. Et donc, le latin s'empare du mot sous la forme stabulum, dans le sens d'étable, réemprunté au XIXe siècle dans le terme technique stabulation pour désigner le séjour de bestiaux dans une étable. Voilà. Et en anglais, du reste, on dit stallion, un étalon, c'est le nom. D'accord. Donc, on est toujours sur la même racine.
Donc, Sylvester Stallone est un étalon.
Certaines actrices l'ont dit, mais je ne sais pas. Je ne le connais pas personnellement, cet homme-là. Grand acteur, ceci dit. Qui est capable d'étrangler un étalon comme ça, comme qui rigole.
Ah, juste avec les mains.
Voilà.
Sans problème.
Alors, le français a gardé le mot stall. Donc, on sait ce que c'est. Un compartiment cloisonné dans une écurie et dans laquelle on attache un cheval. Donc, on ne confond pas une stall et un box, évidemment.
Ah, complètement.
Et je me souviens qu'avant, dans les haras, les chevaux de trait n'étaient pas en box, comme ça se dit maintenant. Ils étaient tous attachés dans des stalles.
Complètement.
Voilà. Ouais. Et du reste, on parle aussi dans les églises des stalles où le clergé se met pendant les messes, effectivement, qui sont ces espèces de petits fauteuils placards, en quelque sorte, et ils s'installent là.
Mais ils ne sont pas attachés.
Peut-être par la foi.
Bravo, joli.
Alors, ça donne aussi le mot étal, la table sur laquelle un marchand installe, donc on est toujours sur la même racine, installe ses produits, donc l'étal où on installe ses produits. Peut-être des rognons, je ne sais pas, plein de bonnes choses, quoi. Peut-être également, alors là c'est peut-être, hein, l'étalon de mesure à partir duquel on reproduit une mesure qui soit invariable. Donc on parle aussi, ainsi de maître étalon, un peu comme l'étalon cheval et le reproducteur d'une lignée. C'est-à-dire à partir de là on fait une lignée, ben, à partir d'un maître, par exemple le maître étalon, ben, on peut mesurer ce que l'on veut. Et simplement, donc je le dis, l'explication effectivement est très très séduisante, mais elle est toujours discuté par les linguistes. Donc, mettons ça avec un grand point d'interrogation. Alors, Saumur, quel cavalier ne ressent pas un petit pincement au cœur quand il entend prononcer le nom de cette ville du Maine-et-Loire ? Et le général Lod disait qu'à Saumur, les chevaux obéissent au souffle de la botte. Rien ne semble bouger en effet chez ces cavaliers au visage impassible, ni les mains, ni les jambes, alors qu'ils enchaînent le pas d'école, les piaffés, les courbettes et l'ensemble des figures de la haute école française. Alors, l'origine de l'école remonte au tout début du XVe siècle, à l'époque du roi René, on en a parlé tout à l'heure, du roi René, également duc d'Anjou, qui installe à Saumur ses chevaliers et ses écuyers. C'était en fait à Saumur ses chevaliers et ses écuyers. Un siècle plus tard, en 1590, le gouverneur de la ville, Duplessis Mornay, obtient de Henri IV, l'autorisation de créer une académie scientifique protestante, ainsi qu'une académie d'équitation. Là, cette fois-ci, on parle d'académie. C'est important. Cette dernière est dissoute lors de la révocation de l'édit de Nantes. C'était à la fin du 1685. Et quelques années plus tôt, avait été créée l'école de Versailles, où l'on enseignait l'art équestre selon les principes de l'écuyer François Robichon de la Guérinière. Enfin, le grand écuyer de la grande époque classique de l'équitation française. Alors, d'autres académies s'ouvrent sur ce modèle au début du XVIIIe siècle, comme le manège des pages aux Tuileries, hein, l'académie d'exercice de Lunéville ou encore l'école des chevaux légers de la Maison du Roi. Voilà. Donc, qui était réservé à la noblesse, généralement la petite noblesse. Des académies dans lesquelles l'équitation s'était transformée en une pratique d'art pour l'art, et ça c'est très très important, bien loin des impératifs militaires. C'est-à-dire, en fait, ça posait même un problème pour les armées, c'est-à-dire que ces cavaliers qui avaient des chevaux extraordinaires avaient absolument pas envie de les envoyer se faire concasser et blesser sur le champ de bataille, et donc souvent déclinaient l'offre parce que ils disaient c'est pas possible quoi, aller faire un safari avec une voiture haut de gamme qui vient de sortir du garage, on hésite, on préfère le vieux 4x4.
Mais Saumur avait quand même une vocation militaire.
Alors justement, c'est ce qu'on va voir, voilà, et c'est un petit peu pour s'opposer à cette académie de faire de l'art pour l'art. Le maréchal Maurice de Saxe considère cela comme une dérive. Et alors, ce Maurice de Saxe, c'est un cavalier réputé qui est né à la fin du XVIIe siècle. Et donc, il intervient pour recréer une équitation dont les objectifs obéissent à des fins strictement militaires cette fois-ci. Alors là, strictement militaires. Et alors là, il estime que les cavaliers de l'armée doivent simplement savoir maîtriser les trois allures. Hein, ça, alors là, je veux dire, le manuel, il est pas épais. Hein. Maîtriser les trois allures, maintenir les distances, c'est important quand on manœuvre à 300-400 cavaliers, il faut savoir maintenir les distances. Tourner et s'arrêter, n'importe comment, on s'en fiche du moment que ça tourne et que ça s'arrête. Et tout ceci, évidemment, sans fioriture. Hein. Il s'agit pas de faire les beaux, il faut que ça soit efficace. Et il obtient gain de cause, ce qui était pour l'époque quelque chose qui a été mal perçu, parce qu'effectivement c'était la belle équitation de la guérinière, et simplement enfourcher un bourrin pour aller un peu n'importe comment faire n'importe quoi, ça véritablement la noblesse n'appréciait pas. Et alors, à la suite de ça, donc ce Maurice de Saxe donc emporte le morceau, et cinq grandes écoles d'équitation sont établies quelques années plus tard à Douai, à Besançon, à Metz, à Combray et à La Flèche. La Flèche, ça vous te dit quelque chose, Karine, je suppose, La Flèche.
C'est une école militaire, non, La Flèche?
Et c'est pas très loin de Saumur aussi. Ouais. C'est pas très loin de Saumur. Alors, c'est en 1763 que les carabiniers du comte de Provence s'installent à Saumur et prennent en 1774 le nom de carabiniers de monsieur. Alors, il faut dire que monsieur, c'était le nom que l'on donnait aux frères du roi. On disait monsieur le frère, voilà, c'est ça, donc c'était le nom. On disait pas ton frangin, on disait monsieur, monsieur. Une école d'équitation, on voit beaucoup sur des gravures, etc. La légende en disant monsieur, monsieur frère, et puis voilà, on savait de qui on parlait. Alors, une école d'équitation, bien évidemment, est construite avec des écuries et deux manèges, le manège des écuyers et le manège de Montbrun. C'est le nom des manèges, bien sûr. Grâce à l'excellence de l'enseignement qui est dispensé, l'école d'équitation de La Flèche, dans le département de la Sarthe, est transférée à Saumur en 1768. Voilà, donc premier déménagement. Mais 20 ans plus tard, cette garnison est envoyée à Lunéville en Lorraine. Et alors là, la conséquence, c'est que Saumur perd son école. Il n'y a plus d'école à Saumur. Terminé. Alors, on verra que l'histoire de Saumur, ça a été vraiment des hauts et des bas, hein, et pas mal de bas. Et elle s'en est toujours relevée, ça c'est ça qui est formidable. Alors, dans un premier temps, la Révolution française supprime les écoles de cavalerie. Cavalerie égale noblesse, on n'en veut pas, donc allez, virer les chevaux, il n'y a rien à voir. Dans un premier temps seulement, puisque en 1796, consciente de l'importance de la cavalerie militaire, elle rétablit cette arme, pas fou, et installe à Versailles une école d'équitation, de nouveau à Versailles, une école d'équitation formée avec ce qui reste de la grande écurie royale. Donc vraiment, les balais, les brouettes, tout ça, et les trois pauvres vieillards idèles, enfin bon, ils essayent de refaire quelque chose. L'école est rattachée au ministère de l'Intérieur, donc République évidemment, ministère de l'Intérieur, puis 2 ans plus tard, elle passe sous l'autorité du ministre de la Guerre et prend l'appellation d'école d'instruction des troupes à cheval. Là, vraiment, on a un autre vocabulaire, une autre sémantique. 3 ans après, en 1799, l'école est renforcée par 2 annexes, donc la première à Lunéville et la seconde à Angers. Et la douceur angevine. Et celles-ci resteront en fonction jusqu'au début du 19e siècle. Couronné empereur, alors on continue un petit peu dans l'histoire, Napoléon, conscient de l'importance de la formation de bons officiers de cavalerie, prend à son tour les choses en main. Il constitue plus de 130 régiments. Alors là, c'est vraiment... il met le paquet. Il a quasiment décimé l'élevage équin en France. On trouvait pratiquement plus un cheval en France. Donc, 130 régiments montés et fondent en 1809 l'école militaire spéciale de la cavalerie à Saint-Germain-en-Laye, à côté de Paris. Hein. École qui est rapidement rattachée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.
Qui existe toujours, je crois d'ailleurs, non?
Qui, je me semble, existe toujours. Mmh. Alors bon, en fait, il a créé ça assez peu de temps après sa chute, et donc après l'abdication de Napoléon, le maréchal Soult, qui avait été un de ses anciens généraux de cavalerie, est devenu ministre de la guerre de Louis XVIII, et ce maréchal Soult rétablit l'école, qui sera pourtant supprimée à nouveau en 1822. Donc on voit, ça n'arrête pas, hein. On recrée, on referme, on referme, on recrée, c'est compliqué. Et il faudra attendre l'année 1825 pour assister à la renaissance de l'école de Saumur sous l'appellation d'école royale de cavalerie. Bon, après toutes ces pérégrinations, on est enfin retourné sur nos pieds. Voilà. Alors, on s'en doute, l'histoire de ce temple de l'équitation, enfin, je crois que pour nous tous, Saumur, c'est quand même une grande référence. Il y en a d'autres, mais enfin, c'est une grande référence. Et cette équitation savante à la française, quoi, qui est tellement particulière, où le cheval n'est pas contraint, bloqué, ou en tout cas, s'ils le font vraiment, ça se voit pas, mais on a l'impression que le cheval est, comment dirais-je, est à l'aise dans ses airs, quoi. C'est ça qui est formidable avec, avec Saumur. Et cette équitation à la française, évidemment, va pas finir là. C'est ce que le messager du cheval vous contera dans une prochaine émission.
Et maintenant, on continue avec une pause musicale, hein, avec Bob Marley et son titre « So Much Things to Say ».
So much things to say. They got so much things to say right now. They got so much things to say. Hey, but I'll never forget, no way, they crucified Jesus Christ. I'll never forget, no way, they sold Marcus Garvey for rice. I'll never forget, no way, they turned their back on Paul Bogle. Hey, hey, so don't you forget, no, you, who you are and where you stand in the struggle. They got so much things to say. But I not come to fight flesh and blood, but spiritual wickedness in high and low places. So while they fight you down, stand firm and give Jah thanks and praises. Cause I do expect to be justified by the laws of men. By the laws of men. Oh, jury found me guilty, but prove my innocence. Oh, when the rain falls, all gold now, between four and one man's house. Stop, remember that. When the rain falls, it won't fall on one man's house. Stop, they singing. So very much, so very much, so much. I have come to fight flesh and blood, spiritual wickedness in high and low places. So why they fight you down, stand firm and give your thanks and praises. I no expect to be justified by the laws of men. By the laws of men, a true God to prove my innocence. I don't do wicked. Found me guilty. They got so much things to say right now. So much things to say. They lovering all the time. So much things to say. Rumor about they got the rumor without humor. They don't know what they're doing. Yeah.
Alors aujourd'hui, dans la petite rubrique « C'est qui ce cheval ?», on va parler d'un petit cheval sympathique qui s'appelle le cheval de race Auvergne. Alors, plusieurs appellations régionales sont utilisées pour le nommer. On l'appelle le Cantalou, le Lozéro, donc la Lozère, l'Aumônais, la jument de faille ou le ragot des montagnes, le ragot, comme un ragot. Alors, selon la légende, la présence de ce cheval en Auvergne remonterait à l'an 732, lorsque Charles Martel repoussa les Sarrasins à Poitiers. Bon, ça, c'est un petit peu la légende. Et ces derniers auraient, les Sarrasins, laissé derrière eux leurs chevaux barbes qui auraient fait souche en Corrèze et seraient rentrés chez eux, en Corrèze, en Creuse et en Haudienne, et seraient rentrés chez eux par le TGV, évidemment. Donc, la robe du cheval d'Auvergne est baie. Alors, toujours baie, parfois avec quelques variantes dans le baie, puisque le baie, ça peut être clair, moyen, foncé, etc. On a même des baies qui flirtent avec le noir, en fait.
Un baie brun.
Baie brun. Les extrémités noires de ses membres, par contre, sont bien marquées. Sa croupe double et musclée dénote ses aptitudes de solide petit cheval paysan. Parce qu'il est sympathique, ce cheval. Ça ressemble à un cheval de trait en miniature, en fait. Hein. Voilà. Alors, il a un caractère vif, généreux, un tempérament sociable et rustique. Mais le cheval d'Auvergne, comme beaucoup d'autres, ont failli disparaître avec la mécanisation de l'agriculture et les modes de vie. Bon, les gens allaient moins à cheval, bien sûr. Alors, c'est un cheval qui est énergique, docile, ça il est vraiment docile, bon porteur, qui a le pied sûr. C'est un montagnard, parce que bon, l'Auvergne, c'est beaucoup de montagnes, hein, c'est pas les grandes plaines. Il est aguerri et idéal aussi, bien monté qu'attelé. Alors là, c'est le cheval polyvalent, hein, on peut faire ce qu'on veut. Son caractère patient et bienveillant rassure les néophytes et en fait un partenaire rêvé dans les écoles d'équitation. On l'utilise de plus en plus dans les écoles d'équitation, parce qu'il rassure, c'est un gentil cheval. Et les juments de race Auvergne sont également réputés pour la qualité de leur lait, qui est particulièrement recherché par les laboratoires de produits de beauté, les laboratoires de cosmétiques. Alors en 1997, une association a été créée pour la sauvegarde de ce petit cheval sous le nom d'Association Nationale du Cheval de Race d'Auvergne, et elle a signé il y a 3-4 ans avec les nationaux la charte cheval de race Auvergne, un premier pas encourageant vers la reconnaissance officielle de l'animal. Alors on espère qu'en France on aura une race pour un bon petit cheval de randonnée reconnu par les haras, et ça sera formidable.
Tout à fait, on espère.
Alors la semaine dernière, nous avons parlé de la différence qui pouvait exister entre un cavalier et un homme de cheval. L'un serait un simple utilisateur de l'animal, tandis que le second chercherait à prendre en compte le cheval un peu dans sa totalité, au-delà de, on pourrait dire, du fait de monter sur son dos et pratiquer l'équitation. Donc, ou on pourrait dire plus exactement les équitations. En d'autres termes, peut-on devenir homme de cheval en se spécialisant de façon excessive dans une seule branche de l'équitation?
Oui. Alors, oh ben oui. Oui. Homme de cheval complète, c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est pas seulement un complément à une équitation spécifique, c'est, on va dire, un tronc commun. Donc homme de cheval, c'est tout ce qui concerne le cheval, mais qui concerne aussi tout ce qui entoure le cheval, c'est-à-dire que ce soit les clôtures, éviter de mettre du barbelé par exemple, c'est voilà, un homme de cheval un peu aguerri mettrait pas du barbelé, éviter par exemple des portes de boxe qui sont où il y a des pointes qui peuvent sortir, on en connaît quelques-unes, des portes de boxe qui sont pas du tout
donc pas simplement le cheval, mais l'environnement du cheval,
l'environnement aussi. Complètement, c'est ce qui peut évidemment amener un danger pour le cheval. Voilà, après il y a toute une éthique qui est autour de ça, c'est-à-dire de tout faire et de faire en sorte que le cheval se trouve dans ce qui peut être de mieux en fait pour lui, hein, essentiellement. Ça comprend aussi ce qui est à l'extérieur du cheval, y compris le vent, y compris le voyage en vent, y compris le faire monter dans un vent, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu accessoire. Donc le cavalier, il peut avoir une discipline et en même temps être un homme de cheval, mais c'est pas parce qu'il a une discipline qu'il est homme de cheval non plus.
Donc, effectivement, d'une part, la spécialisation excessive, c'est peut-être pas forcément... Deuxième chose quand même, c'est que tout le monde... pour pouvoir, appréhender le cheval dans sa totalité, il faut d'une certaine façon vivre avec.
Ouais,
or, prenons cas de personnes qui vont dans un club monter le samedi, voire monter le dimanche. Et puis
c'est difficile pour eux, pour la personne qui vient monter une heure par semaine, ou 2 heures, ou 3 heures, en venant 2 fois ou 3 fois par semaine. On peut pas lui demander d'être un homme ou une femme de cheval.
Mais alors, ne nous décourage pas.
Non, il y a des gens qui ont du bon sens déjà au départ, c'est déjà merveilleux. Mais après, tout le monde le dit, tous les plus grands cavaliers l'ont dit. Déjà, on n'a pas assez d'une vie pour comprendre comment fonctionne la mécanique d'un cheval. Après, comment fonctionne son esprit? Comment fonctionnent ses émotions? Comment il fait pour analyser les situations qui sont hyper rapides, hyper complexes? Il les analyse dans un quart, dans un dixième de seconde. On n'en est pas là. L'esprit humain a beaucoup de mal à se mettre au niveau du cheval.
À tourner aussi vite, en quelque sorte.
À tourner aussi vite et être aussi vaste, aussi riche et aussi complet. Lui, dans sa spécificité d'être une proie. Donc, forcément, il est dans un état d'esprit, dans une configuration que nous, humains, on n'est pas. Donc, déjà, on a beaucoup de mal à faire un pas vers lui. Donc, après, quand on va commencer à essayer d'être homme ou femme de cheval et à essayer de voir tout ce qu'il y a autour du cheval, en plus du cheval, ça fait une somme de connaissances qui est énorme et qu'évidemment, on ne peut pas acquérir en montant une fois par jour.
Oui, c'est ça, enfin, c'est ce que je veux dire. C'est
une fois dans la semaine.
On peut très bien être cavalier, évidemment. On le voit donc en montant à son rythme, si je puis dire, ou selon ses possibilités. Mais effectivement, pour devenir homme ou femme de cheval, bien sûr, puisque ça va pour les deux sexes. Oui, en fait, il faut pratiquement y consacrer l'essentiel de son existence, en fait.
Ben, carrément, oui. Et puis, on n'a pas assez d'une existence. Soit Henri Quay ou Olivera, ils l'ont dit aussi, ils n'ont pas assez d'une vie, alors qu'eux, ils n'ont fait que ça toute leur vie. Et sur plusieurs générations, avec des maîtres de plusieurs générations. Donc, mais pour pas décourager les gens, et il faut quand même se dire qu'on n'est pas obligé d'être un homme ou une femme de cheval pour monter à cheval.
Voilà, c'est ça. Hein,
on peut quand même se faire plaisir, avoir du bon sens, avoir du respect, sans être un homme de cheval et d'avoir toutes ces connaissances.
Tout à fait. Je pense aussi que le fait de voir un cheval en liberté, je sais qu'on avait reçu Tita du lycée de Vaxer qui disait ses nouveaux élèves qui ne connaissaient pas le cheval mais qui avaient pris l'option cheval, les premières séances étaient uniquement les amener voir les chevaux. C'est tout. Voilà.
Et ça se comprend, hein. C'est bien la première chose à faire et c'est bien aussi la dernière chose à faire. C'est-à-dire que tout le long de notre vie, quand on est près des chevaux, l'essentiel, évidemment, est de voir des chevaux en liberté. Mais ça, c'est toujours très compliqué. Voilà. Parce que dans les centres équestres, c'est très compliqué de voir des chevaux en liberté. Malheureusement.
Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Donc c'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr, un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.